Une question indiscrète. Qu'est-ce qui attire en premier lieu un jeune homme chez une jeune fille ou chez le mari, chez sa femme? Chacun peut répondre dans son cœur. Dans les années 70, alors que le GBU était à ses débuts, nous avions encadré un camp d'un groupe de groupe public lycéen. Et il y avait un groupe de prières que je dirigeais. Et quand on a fini de distribuer, de partager les sujets de prière, on a commencé à prier, chacun à tour de rôle. Puis, à un moment donné, il y a une jeune fille qui a prié. Elle a prié, prié, prié. Et il y avait une telle communion avec Dieu dans sa prière, très profond. Et je n'ai pas pu résister, j'ai ouvert les yeux et je regardais qui était en train de prier. À ce moment-là, je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas son nom, mais ça m'a vraiment frappé. La manière dont cette jeune fille avait prié, c'est ça qui m'avait attiré en premier, cette jeune fille. Trop spirituel, diriez-vous. Mais 5 ans plus tard, j'ai épousé la jeune fille en question. Un jour, les disciples demandèrent à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Je vous prie d'ouvrir vos Bibles alors dans Matthieu, chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 5. Au nom du Seigneur. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Excusez-moi, j'ai une tache un peu sur les... Alors, j'avais fait une série de prédications sur l'oraison dominicale, comme on l'appelle, et j'ai choisi pour vous de parler de la première requête de la deuxième partie de cette prière, celle qui concerne l'homme. à savoir, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Mais avant d'enseigner à ses disciples la manière de prier, Jésus a d'abord parlé des mauvais modèles à ne pas imiter. Il parle d'abord des hypocrites qui aiment à être vus et admirés des hommes, mais n'avaient aucune profondeur. Ensuite, il parle des païens qui faisaient de longues prières et pensaient qu'ainsi ils pouvaient amadouer Dieu afin que Dieu exauce leur propre volonté. Mais, comme dit ce chant que nous connaissons bien, Dieu sait si bien ce qui me semble lourd, ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins. Et Paul dit dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Nous allons résumer rapidement la première partie, celle qui concerne Dieu. Notre Père qui es aux cieux, celui à qui s'adresse notre prière, c'est ce Dieu puissant, ce Dieu éternel qui ne change pas, mais c'est aussi ce Père qui nous connaît. Et seuls ses enfants ont accès devant le trône de grâce par Jésus-Christ, leur Sauveur. Que ton nom soit sanctifié. Que le culte rendu à ce Dieu ne soit pas mélangé à des pratiques impures ou même au culte, comme il arrive parfois chez nous à Madagascar. On fait des retournements des morts, mais avant de faire cela, on fait un culte. Un syncrétisme vraiment horrible, si j'ose le dire. Ou alors de mélanger le nom de Dieu à des slogans politiques. Non. Mais que ma vie aussi, en tant qu'enfant de Dieu, ne soit pas entachée de péché, mais qu'elle reflète les caractères de Dieu, la sainteté, la justice, l'amour. Que ton règne vienne. Ce royaume n'est pas seulement différent, mais c'est un règne qui est vraiment autre. C'est un royaume qui n'est pas un peu mieux, mais c'est un règne de justice, de paix, de bonheur éternel. Et ce règne trouvera son accomplissement parfait au retour de Jésus-Christ. Mais se vit déjà maintenant au sein du peuple de Dieu. Et ma vie présente, est-ce qu'elle reflète déjà le fait que Dieu est mon roi? Que ta volonté soit faite. C'est le Christ qui a accompli parfaitement cette volonté divine en s'offrant en sacrifice sur la croix afin que ceux qui croit en lui ne périsse point. Mais quand nous prononçons cette prière, que ta volonté soit faite, il y a là aussi un engagement de notre part. Ce n'est pas seulement que je connaisse la volonté de Dieu. C'est souvent ça qui nous trouble. Quelle est la volonté de Dieu? Une fois que nous la connaissons, ah, ça y est, je connais la volonté de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas simplement non plus que j'accepte la volonté de Dieu, mais surtout que je fasse la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et quand je dis que ta volonté soit faite, ça commence par moi, que Seigneur, je puisse faire ta volonté. En fait, ce que Jésus enseigne aux disciples et à nous, ce n'est pas simplement une manière, une façon de parler, mais surtout une manière de vivre en communion avec ce Dieu de toute éternité, ce Dieu dans le ciel. Et nous arrivons à notre propos de ce matin, la première des quatre quêtes qui concernent l'homme. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. L'homme est un être de besoin. Nous sommes faits pour recevoir quelque chose. Nos besoins ont besoin d'être satisfaits. Le célèbre psychologue Abraham Maslow a représenté cela sous forme d'une pyramide. Et à la base, il y a les besoins primaires, comme par exemple manger, boire, s'habiller. Puis il y a les besoins secondaires, comme besoin de sécurité, besoin d'harmonie dans la société, besoin d'amour, besoin de relations, besoin de s'exprimer, etc. Et puis, troisièmement, il parle des besoins supérieurs, c'est-à-dire se réaliser, créer, besoin d'autonomie, besoin d'être estimé, etc. Mais ce que M. Maslow a oublié au sommet de la pyramide, en fait, c'est ce besoin de Dieu, de remplir ce vide en forme de Dieu. Le plus grand besoin de l'homme, c'est assurément la réconciliation avec Dieu. L'enseignement de Jésus ici, donc, redresse, corrige notre manière de prier, mais aussi affine notre perception de nos vrais besoins. Alors il dit, donne-nous notre pain. En ce 21e siècle, des millions de personnes dans le monde ont faim. Non seulement ont faim, mais meurent de faim. Et peut-être que certains dans notre société, parmi nous peut-être, pensent qu'ils n'ont pas besoin de prononcer cette prière parce qu'ils ont tout. Ils ont l'argent, un bon emploi, une bonne santé, maison, etc. Cette prière est pour les pauvres, pour les pays les moins avancés. Mais la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Jésus parle ici de pain. Selon Maslow, c'est un besoin primaire. Et pour les Français, le pain. Chez nous, il y a une boulangerie qui s'appelle le pain français, qui existe déjà depuis le temps de la colonisation. C'est un bon pain, je vous rassure. Parce qu'on a du pain aéré. Vous voyez ce que je veux dire? On mange plus de l'air que de la farine cuite. Mais l'Écriture nous dit aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme n'est pas seulement un tube digestif. Et Jésus lui-même, dans ce chapitre, parle d'un autre pain qui rassasie notre âme. Au verset 27 de ce chapitre 6 de Matthieu, voici ce qu'il dit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Au verset 33, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et Jésus, ce pain du ciel, pourra seul vraiment remplir le vide de notre cœur, satisfaire les besoins profonds de notre être. Mais il y a aussi sa parole, comme je viens de le dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce sont des paroles que nous connaissons bien, mais parfois, comme le dit à Madagascar, il y a un proverbe qui dit « Nous avons soif sur la barque. Nous sommes entourés d'eau et nous avons soif. » Car cette parole, elle est près de nous. Cette parole, elle est dans notre bouche, comme le dit Paul en Romains chapitre 8. Malheureusement, nous cherchons satisfaction ailleurs, comme ce fils prodigue qui n'a pas su vraiment apprécier toutes les bénédictions, tout le bonheur, toute la grâce qu'il avait dans son père. Il a demandé sa part d'héritage, il est parti ailleurs alors qu'il était dans la maison du père. Et même le fils aîné, n'est-ce pas, qui était là et qui n'a pas vraiment apprécié le fait d'être chez son père. Et son père le lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Oui, nous cherchons parfois satisfaction ailleurs, dans les plaisirs du monde, dans les réussites et tout ce que la théologie de la prospérité propose. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Il y a des priorités sur ce dont nous avons réellement besoin et qui est bon pour nous. Jésus apprend aux disciples et à nous, par cette parole, « Donne-nous ». Qu'est-ce que cela implique ? « Donne-nous ». Ce que Dieu nous donne est vraiment un don et non un droit. L'assiette de riz ou l'assiette de pâte, surtout si c'est assaisonné, accompagné de viande, la tasse de café, la tranche de pain, mais aussi les buffets gastronomiques lors des mariages ou autres événements heureux. Tout cela, c'est un don de Dieu. C'est pour cela que, avant de manger, nous rendons grâce, n'est-ce pas ? Ce n'est pas simplement une habitude. Et parfois, ce sont les prières enfantines qui sont vraiment authentiques et qui sont un modèle pour nous. N'est-ce pas ? Quand ils commencent à ouvrir les yeux et puis ils regardent ce qu'il y a sur la table, « Merci Seigneur pour la carotte, pour le petit pain, pour le pain, etc. » Cette simplicité enfantine que nous avons besoin de retrouver aussi de temps en temps. Tout est grâce, tout est don de la part de Dieu. Nous ne méritons rien de ce que nous recevons. La sueur de nos fronts n'est pas suffisante. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, « Tu nous dois quelque chose. » Nous ne pouvons rien lui réclamer. Notre seul droit, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son amour infini, nous donne avec son Fils, tout pleinement, tout gratuitement, avec abondance, comme le dit Paul dans Romains 8. Ma coupe déborde, dit le psalmiste. Et c'est pour cela que Jésus nous enseigne à dire, avec humilité encore, donne-nous. Donne-nous notre pain quotidien, ou le pain qui nous est suffisant pour ce jour. Beaucoup de gens se tuent pour amasser par crainte de ne pas avoir assez dans l'avenir, comme cet homme riche de la parabole, n'est-ce pas, que nous connaissons, qui a construit des hangars, des silos, un magasin de stockage pour amasser toutes ses récoltes. Et maintenant, réjouis-toi mon âme pour les années à venir. Mais Jésus dit, ici dans Matthieu, chapitre 6, toujours verset 27, que j'ai déjà lu, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas prévoir et planifier. Mais Jésus nous enseigne la confiance. La confiance en Dieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'ai confiance que Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Il nous montrera lui-même le chemin pour nous en sortir. C'est vrai que parfois Dieu utilise des hommes et des femmes pour pourvoir à nos besoins. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à donner aux autres, à être des instruments entre les mains de Dieu pour donner, pour répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. Mais il est dit aussi que maudit soit celui qui se confie en l'homme. C'est en la source dont il faut se confier, dont il faut avoir confiance, et non au canal. David, le psalmiste, dit au psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. » Cela a été toujours vrai pour nous en tant que famille, même si je ne suis pas encore très vieux. Oui, Dieu a été fidèle, toujours, chaque jour. Et pour vous aussi, je pense que nous pouvons vraiment louer et remercier le Seigneur pour tous ses dons, petits ou grands, qu'il a déversés sur nous chaque jour. Si Jésus nous enseigne aujourd'hui à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », il veut nous rappeler que c'est chaque jour que nous devons lui faire confiance. C'est chaque jour que nous avons à lui demander le nécessaire et chaque jour lui rendre grâce pour tout ce qu'il donne chaque jour, aujourd'hui, demain, après-demain, ainsi de suite. Cela n'aura pas de fin jusqu'à ce qu'il revienne, car il sera toujours là, il est toujours présent, comme notre frère nous l'a rappelé. Ce passage dans Josué, « Voici, je suis avec toi. » Et même quand nous serons dénués, démunis de tout, oui, il sera toujours là, il sera toujours présent. Approchons-nous donc de ce Père céleste qui peut nous secourir dans les moments difficiles, pas seulement pour nos besoins matériels, mais aussi pour nos besoins les plus profonds, dans notre être, dans notre âme. La foi, ce n'est pas simplement une attente passive, mais c'est ce mouvement d'aller vers Dieu. Et cela touche le cœur de Dieu quand nous nous jetons dans ses bras par la prière. Donne-nous aujourd'hui. Quand mon petit-fils de 2 ans s'approche de moi, tendant les bras, « Papy, je fonds littéralement. » Mais je sais que derrière, il y a quelque chose, il veut quelque chose. Si nous, parents, nous comprenons cela de nos enfants, de nos petits-enfants, d'autant plus Dieu nous connaît. Et quand nous nous jetons dans ses bras ainsi, comme un enfant démuni qui a besoin d'être rempli, eh bien, Dieu est touché dans son cœur. En résumé de tout cela, que notre vie de prière soit un modèle pour notre entourage, car c'est aussi la marque visible par laquelle on peut voir notre relation personnelle avec notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur que j'ai été entouré de personnes de prière, des personnes qui vraiment priaient. ma mère, ma belle-mère, mon épouse. Les trois sont déjà auprès du Seigneur. On dirait que ce sont toutes des femmes. Où sont les hommes? Paul dit que les hommes se lèvent la main pour prier. Prier, ce n'est pas parler. Ce n'est pas l'éloquence devant Dieu ou la capacité de convaincre Dieu, le forcer à nous obéir. Non, prier, c'est reconnaître notre dépendance envers lui. C'est accepter d'entrer dans son plan, dans sa volonté, avoir confiance en sa bonté et en son amour, qu'il exauce ou non nos prières, parce qu'il sait vraiment de quoi nous avons besoin. Et c'est cela qui nous pousse encore à dire avec humilité, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen.